Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place à l'opinion, le débat d'Europe Soir. Nous sommes ce soir avec Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour et porte-parole de Reconquête. Bonsoir.
Bonsoir.
Et face à lui, Charles Zitzenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également, pour alimenter la discussion, Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Bonsoir Victor.
Bonsoir.
Alors, on en parlait juste avant la pause, hein. Demain, ça fera 6 mois de guerre en Ukraine. Petite question pour commencer. Jusque-là, selon vous, la France d'Emmanuel Macron est-elle à la hauteur des enjeux ? Stanislas Rigaud.
Moi, je vois 2 points là-dessus. Le premier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est faite en France extrêmement anti-russe, etc., et que je peux comprendre. Mais en revanche, j'ai l'impression que le président de la République essaie d'avoir une position plus équilibrée à l'extérieur et qu'on peut souhaiter, on espère tous, que la France soit une puissance d'équilibre, une puissance capable d'essayer de résoudre ce conflit dans les jours et dans les mois plutôt à venir.
Charles Zitzenstuhl.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette affaire d'Ukraine, il y a un agresseur, c'est l'État russe, et puis il y a un agressé, c'est l'État ukrainien. Et depuis le début, la position de la France et du président de la République, elle est claire. Nous souhaitons que les agressions russes cessent, que cette guerre cesse, qu'un accord puisse être trouvé entre les deux États, et puis surtout rappeler que nous sommes aux côtés du pouvoir ukrainien, et c'est ce qu'a encore rappelé aujourd'hui le président de la République, nous soutenons l'Ukraine.
La seule voie, c'est donc la diplomatie.
C'est ce que nous espérons, mais pour le moment, ce n'est pas la voie qu'a choisie, hélas, Vladimir Poutine.
Bien, l'actualité en France à présent, avec ce constat implacable, 4000 postes dans l'enseignement n'ont pas été pourvus après les concours traditionnels. Hein. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a promis un enseignant dans chaque classe. Il risque de ne pas tenir cette promesse. Alors, il y a toujours le recours aux contractuels, mais la réalité, c'est que les effectifs ne sont pas pleins. Pourquoi, selon vous, Stanislas Rigaud, la profession d'enseignant ne suscite plus de vocation ?
Bah, peut-être 2 choses. Bon, le pauvre Pape Ndiaye, pour le coup, il ne peut pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui en termes de manque de vocation, mais je crois qu'il y a 2 grands points. Le premier, c'est évidemment les conditions de travail dans lesquelles exercent les enseignants. Évidemment, nous, ce qu'on proposait avec Éric Zemmour pendant la campagne, c'était une revalorisation des salaires et avec, par-dessus tout, une accélération des carrières pour justement pouvoir revaloriser les salaires. Et l'autre point par rapport aux salaires, c'est aussi permettre d'avoir des primes d'excellence. C'est-à-dire que nous, on voulait encourager les inspections pour que les profs méritants, les profs courageux qui travaillent avec force dans les classes, puissent être récompensés le cas échéant. Et l'autre point qui n'est quand même pas des moindres, je crois, c'est le suivant. C'est qu'il y a quand même un climat ambiant de violence parfois avec les professeurs qui est alarmant. On se souvient par exemple de profs, je crois que c'est dans l'Essonne, un instituteur roué de coups par un enfant de 8 ans. Je crois que c'est dans un autre département, en Seine-et-Marne, il me semble, où un professeur se fait jeter par terre, filmer, balancer sur les réseaux sociaux. Il y a un climat quand même de violence dans l'éducation nationale qui existe et qui peut décourager, j'imagine, beaucoup d'enseignants, enfin beaucoup de jeunes, à vouloir s'engager là-dedans. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui de prendre cette voie-là, qui est une voie, il faut le rappeler, magnifique, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager son savoir. Mais ces 2 grands points-là, je pense, peuvent freiner ces vocations-là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument assurer, je pense, des récompenses et encourager les professeurs à faire correctement leur travail. Et deuxièmement, assurer évidemment une sérénité absolue pour toutes les personnes exerçant ce métier.
Charles Zitzenstuhl, la majorité, le gouvernement a promis 2000 euros de salaire minimum pour les nouveaux enseignants, mais le salaire, effectivement, ne peut pas seulement expliquer le manque de vocation hein, de nos jours, quand on voit des trentenaires qui renoncent à faire le plus beau métier du monde, ce qu'on appelait encore il y a quelques années le plus beau métier du monde.
Mais c'est vrai qu'être instituteur, enseignant, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et il faut le dire et toujours le redire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il y a incontestablement une crise des vocations, qui d'ailleurs n'est pas que française, puisqu'il y a un rapport du Sénat qui a montré que dans plusieurs pays d'Europe, il y avait un problème de recrutement dans diverses matières de l'enseignement. Alors moi, par exemple, je viens d'Alsace, de l'Est de la France. On sait qu'il y a une grosse pénurie d'enseignants d'allemand. Voilà. Il y a plein d'autres matières, les mathématiques. Alors que la France est un pays d'excellence en mathématiques, on a du mal à recruter.
Et les mathématiques reviennent dans le tronc commun cette année.
Tout à fait. Il y a un problème d'attractivité financière. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Les enseignants dans notre pays sont sous-payés, ne sont pas assez payés. Et on ne peut pas reprocher à des gens qui ont fait plusieurs années d'études de vouloir que ces études-là soient récompensées par un salaire décent qui leur permette de vivre à hauteur de leur statut. La deuxième, c'est qu'il y a aussi une crise de l'autorité dans notre pays depuis maintenant plusieurs décennies. qui a aussi impacté les enseignants. Et quand vous discutez avec des profs en maternelle, en primaire ou dans les collèges, ils vous disent qu'effectivement, ils passent parfois autant de temps à faire cours qu'à éduquer un certain nombre d'enfants ou à devoir gérer des situations familiales et personnelles avec certains parents d'élèves. C'est d'ailleurs dans tout type de milieu et dans tout type de géographie. Et donc, ce que nous, on propose avec le gouvernement, c'est bien sûr de revaloriser les carrières. Et donc, désormais, l'entrée dans le corps enseignant se fera à 2000 euros net. C'est un geste extrêmement important. On a également revalorisé le point d'indice cet été 3,5%, qui touche aussi les enseignants. Il faudra encore faire des efforts budgétaires à terme.
L'éducation, ce sera donc l'un des grands sujets d'une première grande étape de la rentrée politique. Ça sera évoqué lors du Conseil national de la refondation annoncé pour le 8 septembre par Emmanuel Macron. Victor Chabert, aucune grande force d'opposition n'a décidé d'y participer à ce CNR, comme on dit.
Mais parce que pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Les contours sont encore flous. On sait juste que ce sera lancé le 8 septembre, qu'il doit y avoir des élus, des partenaires sociaux, des associations. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Sa vocation, normalement, ce sera pour préparer les textes avant qu'ils arrivent au Parlement. Mmh. Donc si c'est un Parlement bis, autant vous dire que les parlementaires vont monter au créneau, vont se mettre eux aussi à sûrement ne pas apprécier la chose. Donc pour l'instant, c'est très très flou.
Stanislas Rigaud.
Je souscris, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on ne sait pas à quoi il sert pour le moment, c'est compliqué de se prononcer dessus. On espère évidemment que ce genre d'initiative soit pour une fois utile. Mais vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec toutes ces créations d'assemblées, de discussions, etc.
Alors de conventions citoyennes, de grands débats.
Exactement, c'est-à-dire que c'est important, mais je crois que pour une fois, on a une Assemblée nationale qui est représentative, ou en tout cas où il y a des forces d'opposition fortes. Il y a trois grands blocs à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pour une fois, il peut y avoir du débat là-bas avec des vraies discussions, échanges parfois musclés. Profitons-en, on a une assemblée qui existe, qui est vivante, je crois qu'elle n'a jamais été aussi vivante, en tout cas aussi attractive pour les gens depuis l'entrée et de la NUPES et du groupe Rassemblement National. Profitons-en, donc ne perdons pas de temps à côté à faire des grandes conférences, des grands trucs comme ça. Je crois que beaucoup de constats d'ailleurs sont faits et qu'il faut arrêter de tout le temps vouloir faire du diagnostic. Alors qu'en réalité, sur beaucoup de sujets, on en parlait sur l'éducation par exemple, sur l'immigration, la sécurité, le problème dans les hôpitaux, c'est des constats qui globalement sont faits par tout le monde. Arrêtons de tourner autour du pot et proposons à l'Assemblée ou au Parlement plus exactement de se prononcer sur tous ces sujets-là.
Charles Zitenstuhl, vous n'avez pas peur d'être concurrencé par le CNR, vous qui siégez dans cette assemblée si fracturée?
Non, je ne serai pas aux deux. Oh. Non, il faut bien distinguer. Le Conseil national de la refondation n'a pas vocation à remplacer...
Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans?
Mais ce CNR sera lancé le 8 septembre, selon ce que j'ai compris, et j'imagine que c'est à cette occasion-là que les choses seront annoncées. Donc, attendons, il y a quelques jours. On sait qu'il y aura un certain nombre d'acteurs de la société, associatives, j'imagine des élus, des forces économiques, c'est important. Ce CNR n'a pas vocation à se substituer au Parlement. Mmh. Le Parlement, il est là pour proposer les lois, discuter, les voter, contrôler l'action du gouvernement. Il y a dans notre pays une demande très forte d'associations d'un certain nombre de citoyens, au débat public et aux décisions publiques. Et moi, je suis assez surpris que beaucoup de responsables de l'opposition, quand ils ont leur casquette d'élu local, puisqu'un certain nombre le sont, moi je le suis aussi d'ailleurs, quand ils ont leur casquette d'élu local, ils adorent expliquer dans leur campagne municipale, départementale, régionale, qu'il faut créer des conseils de développement, qu'il faut faire de la démocratie participative, qu'il faut associer, faire des réunions de quartier, des conseils de quartier, qui sont d'ailleurs des choses qui sont très intéressantes, et moi que j'ai pu voir en Alsace, dans ma ville de Sélestat, ailleurs, et des choses qui peuvent aider à la prise de décision. Et puis quand ils arrivent sur le terrain national, alors là, on ne sait pas pourquoi, il ne faudrait plus avoir ce genre de structure un peu souple, intermédiaire. Moi, je trouve que c'est une idée intéressante qu'a lancé le président de la République. Il y a deux sujets qu'il a annoncés dans la campagne présidentielle, santé et éducation. Ce sont des sujets éminemment compliqués qui nous concernent tous. Moi, je trouve qu'il faut laisser la chance à ce CNR.
Stanislas Rigaud.
C'est amusant parce que je pensais à l'instant, du coup, en parlant de toutes ces commissions, à la phrase de Clémenceau, je fais vérifier, j'étais pas sûr de la formule, mais c'est quand on veut enterrer une décision, on crée une commission. On a l'impression que c'est perpétuellement ça, en fait, avec ces gouvernements. On se souvient, et ce sera sûrement l'un des enjeux de cette rentrée, on se souvient tous des Gilets jaunes et de ce grand débat lancé par Emmanuel Macron, qui est une superbe opération de communication, mais qui, dans les faits, n'a débouché sur quasiment rien, et qui, en réalité, est un moyen de faire de la politique fumée. mais qui est extrêmement efficace pour les plateaux télé ou pour sa communication Twitter, mais qui dans les faits n'apporte rien au débat public et en tout cas à la vie des Français.
Voilà, le CNR qui va venir alourdir une rentrée déjà bien chargée, parce qu'il y a de gros textes qui vont arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. Alors les examens ne reprendront que le 3 octobre, c'est ça. Pour mieux négocier en amont des textes courts, si j'ai bien compris, vous me confirmez,
j'espère que les textes seront plus courts et iront droit au but.
Alors, il y aura l'assurance chômage, la réforme des retraites, on va parler aussi d'immigration avec le grand débat voulu par...
Sécurité.
Il y aura la LOPMI, la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Il y aura le grand débat sur l'immigration, puis la loi immigration dont l'examen a été reporté au mois de décembre. De son côté, la NUP, la force de gauche, brandit déjà la menace de... une rentrée sociale tendue avec cet appel lancé par la CGT pour le 29 septembre. Il y aura peut-être une manifestation contre la vie chère et on entend déjà parler du 49-3, notamment pour le vote du budget. Ça s'annonce assez tendu quand même cette rentrée, Victor Chabert.
Oui, parce que la NUPES a tout intérêt à attendre de toute façon cette rentrée. Elle peut reconnecter la gauche avec le monde du travail. Et c'est quelque chose qui est perdu à gauche depuis Hollande. Et là, ils ont l'occasion de se servir des tensions sociales qu'il peut y avoir dans le pays pour reconnecter la gauche à ce qui est finalement son vivier, qui est la protestation sociale. Ils l'ont dit d'ailleurs, Daniel Simonet le rappelait à l'Assemblée, que la rentrée serait terrible socialement, qu'ils descendraient dans la rue, etc. Mais derrière, c'est aussi une stratégie pour eux. C'est de montrer qu'ils sont là pour protéger les travailleurs et se reconnecter à ce qu'historiquement la gauche est. Mais malheureusement, ils vont faire face à un gouvernement déterminé qui veut continuer ses réformes, avec notamment cette réforme des retraites qui va revenir et qui peut être explosive, la loi pouvoir d'achat qui va rentrer, qui est promulguée, qui va montrer ses premiers effets. Et si vous voulez, tous les effets de manche de la NUPES et de la gauche vont sûrement s'affronter au réel.
Ça s'annonce un peu tendu, Charles Zitenstuhl.
Non, mais bon, écoutez, la gauche et singulièrement l'extrême gauche, j'ai envie de dire, ils sont dans leur rôle historique puisqu'ils sont incapables de gagner les élections depuis 10 ans pour la gauche, l'extrême gauche jamais. Leur seul échappatoire, c'est de faire le cirque à l'Assemblée nationale, ce qu'ils ont fait tout au long du mois de juillet. Et puis moi, comme beaucoup de mes collègues députés sur tous les bancs, j'étais assez consterné de leur attitude. Et deux, c'est d'aller dans la rue et c'est d'essayer de faire pression sur le gouvernement via la rue. Sauf que nous sommes en France, nous sommes dans une démocratie et que le pouvoir, il est aux urnes, il n'est pas à la rue.
Stanislas Rigaud, vous qui regardez ça de l'extérieur.
Ça
va peut-être venir à l'extérieur s'il y a des grandes manifestations.
Eh ben écoutez, ce sera peut-être l'occasion pour le coup de participer au débat si je me bats dans la rue à ce moment-là. Mais au-delà de ce trait d'humour, je crois que la France insoumise, la NUPES plus globalement, a un problème avec la contradiction, a un problème avec le débat et a un problème même avec le sort des élections parce qu'on sait, ils sont habitués à se plaindre jusqu'au bout. Ils sont dans un cirque permanent, totalement. Moi, je le suis donc comme un citoyen... normal, je suis les débats sur
légèrement
les chaînes parlementaires.
Un citoyen légèrement engagé.
Mais je vois le cirque qui est fait. Il y a un cirque qui est fait politiquement. On a le droit de ne pas être d'accord avec tel ou tel parti politique. En revanche, il y a des attitudes qu'il n'y a pas à voir. Et je crois que, et de toute façon, ils le font toujours, aller dans la rue, c'est un moyen pour eux d'exister, de se la jouer. Et puis, je voudrais rappeler quelque chose parce que Victor Chabert rappelait que la gauche essayait de se remettre dans son rôle historique, à savoir aider les travailleurs. Moi, je tiens à le rappeler. Les travailleurs, ils ne sont plus à gauche aujourd'hui. Leur électorat, il n'est plus là. Leur électorat, il est parti chez des gens qui, eux, sont réellement intéressés par eux. Je pense notamment pour le coup à d'autres partis politiques, mais il n'est plus à gauche. C'est-à-dire que le peuple de travailleurs les a lâchés parce que justement, ils ont assez de ce cirque et en réalité, ils sont beaucoup plus sur une politique clientéliste à l'égard soit des bobos, soit des populations d'origine étrangère.
Victor Chabert.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut craindre, c'est que la NUPES bordélise entre guillemets jusqu'au bout parce qu'aussi, ça peut lui permettre de tenir. Et s'ils se retrouvent à nouveau en front commun, ça peut leur permettre de tenir et de rester liés ensemble, alors que déjà, ça craque de partout. On voit déjà
pas
sur les européennes.
Pas sûr que le Parti Socialiste...
Pas sûr que le Parti Socialiste, notamment...
Yannick Jadot a déjà annoncé qu'il ne serait pas ensemble aux européennes, etc.
Donc, trouver un front commun, ça peut être la seule issue pour que la NUPES tienne, et ils peuvent aller très loin, on l'a vu déjà précédemment.
Bon, on le voit déjà, ça commence déjà à se fissurer autour de cette... liste commune voulue par la France insoumise aux élections européennes, les écologistes montrent déjà un peu de circonspection. On verra ça dans les prochaines semaines.
Leur circonscription, ils l'avaient quand même oublié pendant deux mois pour de bas accords électoraux et obtenir leur siège de député. Ça s'est dit, mais quand même,
Europe
Écologie Les Verts est quand même consternant là aussi depuis plusieurs semaines, et parfois d'ailleurs on les confond dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on ne sait plus exactement qui est LFI, qui est Europe Écologie Les Verts. Voilà, le Parti Socialiste, c'est encore une autre affaire.
J'aimerais qu'on évoque maintenant l'actualité, car enfin il s'est exprimé, et non, il ne savait rien, il n'était pas au courant de ce concours Colantes, concours de détenus et de surveillants pénitentiaires organisé fin juillet dernier à la prison de Fresnes. La vidéo a été retirée, si vous l'avez déjà vue sur YouTube, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce qu'on a appris, grâce à nos confrères de l'Opinion hier, que parmi les participants, il y avait un condamné pour viol, 10 ans de réclusion criminelle, condamnation prononcée en février 2021, donc assez récemment. Il était assez connu aussi pour des affaires de vol, de violence avec armes, pour trafic de stupéfiants, des incidents en détention également, même une évasion en 2018. Et Éric Dupond-Moretti ne savait rien et il ne s'est pas excusé tout à l'heure. Il était en déplacement à Fleury-Mérogis. Charles Zitenstuhl, il a bien fait de ne pas s'excuser.
Bah écoutez, il n'était pas au courant, Éric Dupond-Moretti, il l'a redit.
Il incarne
ni lui, ni son cabinet. Et si les images de cette séquence ont été supprimées, maintenant, moi j'ai eu l'occasion de les voir dès qu'elles sont sorties. Moi, je veux dire quand même que moi j'ai été à titre personnel extrêmement choqué par ces images-là. En plus, on a appris le lendemain ou le surlendemain qu'il y avait des gens qui avaient été condamnés pour viol. C'est-à-dire, en France, le viol est un crime, c'est-à-dire donc, des criminels. Et des délinquants qui se retrouvaient à s'amuser dans la cour de prison, à faire du karting et une piscine. Et moi, je pense que comme des millions de Français, j'ai été choqué vraiment et révulsé par ces images.
Stanislas Rigaud.
Il y a tout un tas de choses là-dessus. Moi, je veux bien étonnamment croire M. Dupond-Moretti qu'il n'était pas au courant de cette décision. Mais c'est-à-dire qu'il y a une faille énorme dans la communication, dans la chaîne hiérarchique au ministère de la Justice. C'est-à-dire que le garde des Sceaux n'est pas au courant d'une décision aussi importante, aussi grave. Mais il y a plusieurs choses qui ont été absolument choquantes. C'est-à-dire que là où il n'a pas tort, Dupond-Moretti, c'est que oui, à la réinsertion, la prison a plusieurs vocations, protéger évidemment les citoyens français, mais aussi vise à réinsérer les personnes dedans. Mais je ne crois pas que la réinsertion passe par du karting, notamment quand on voit aujourd'hui en France des milliers de ménages qui ne peuvent pas payer de séances de karting à leurs enfants et qui voient pendant ce temps-là, avec nos impôts, parce que les prisons, pardon, mais c'est quand même financé par les impôts des Français, se retrouver à faire du karting.
Et quand alors, ça n'a pas été financé par les fonds de la prison.
Oui, par M. Dramé, mais qui a été invité par là. Et enfin, c'est encore pire de faire venir ces gens-là. Et en plus de ça, accessoirement, mais moi, je trouve ça absolument ridicule, on passe ces gens-là qui défendent aujourd'hui cette affaire de Fresnes, passent leur vie à refuser la stigmatisation et eux-mêmes appellent Colantes. Sous-entendu qu'en gros, les gens dans les prisons sont tous issus de cités. Donc, il faudrait peut-être aussi se mettre d'accord et arrêter de s'auto-stigmatiser, sinon on arrête de se plaindre. Mais en tout cas, Dupond-Moretti, je crois, mais comme à l'image de la Macronie en règle générale, a beaucoup de mal à s'excuser et à reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que, qu'il ne soit pas au courant, c'est une chose, et on veut bien le croire, on peut lui faire ce crédit-là. Mais pardon, un petit mot d'excuse à l'égard des parents, des frères et sœurs, des enfants, des victimes, soit de ce criminel qui a assassiné, soit de ce violeur, ça ne mange pas de pain.
Victor Chabert, il y a un malaise du côté de la place Vendôme. Il a mis du temps à s'exprimer quand même.
Il a mis du temps et pour avoir été cet après-midi avec lui à la visite de Fleury-Mérogis, où il s'est exprimé, il avait l'air passablement agacé. Passablement agacé et il a mis la faute clairement sur le directeur de la prison de Fresnes, qui dans le rapport d'enquête qui va être rendu public dans quelques minutes, a reconnu une erreur d'appréciation manifeste. Mais ce que disait M. Rigaud sur les victimes, c'est aussi ça qui pèse à la chancellerie. C'est cette idée que, imaginez, vous êtes la famille de la personne qui a été violée. Il y a eu aussi un condamné pour meurtre. Vous êtes une famille de victimes. Et vous voyez sur les réseaux sociaux le criminel en question faire du kart dans une prison. Je pense que des excuses de la chancellerie ne feraient pas de mal, ou au minimum du directeur de la prison de Fresnes.
C'était le débat d'Europe Soir. Merci Charles Zitenstuhl. Vous êtes député Renaissance du Bas-Rhin. Merci Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour et porte-parole de Reconquête. Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1, que vous retrouverez très prochainement sur nos ondes. Restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal, il vous sera présenté par Wilfried de Villers. A tout de suite sur Europe 1.